Le contrôle coercitif. Ah ah, je l'ai beaucoup entendu. Bah, on est plus au fait de ces mécaniques-là, mais comme on est dans... Enfin, je vais pas faire de l'histoire des idées bateau, mais on est le fruit d'un système, d'un mode de pensée. Notre éducation, elle est conditionnée par le patriarcat.
À toutes et à tous, toujours un plaisir de vous accueillir dans le temple du gai savoir. Zoom Zoom Zen, c'est 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces notions. Et aujourd'hui, une notion qui met tout le monde mal à l'aise dans l'équipe. En effet, alors qu'on s'apprête à parler du contrôle coercitif qu'exercent certains hommes sur leurs compagnes, cette violence, jamais physique mais psychique, plus sournoise donc, tous les membres de Zoom Zoom Zen, sans exception, sont venus me voir et m'ont supplié de ne surtout pas évoquer dans mon introduction leur rapport avec Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, je les cite, par peur de représailles. Une omerta qu'en tant que producteur de cette émission, je ne pouvais pas tolérer. J'ai donc voulu crever l'abcès en rapportant à Cyril les inquiétudes de mes collègues. Sa réaction fut la suivante. Ces tirs au flanc gauchistes ne me méritent pas, j'aurais dû rester aux States. Cyril faisait là allusion à ses années américaines, notamment la fois où il figura au tableau d'honneur du FBI après avoir verbalisé un handicapé dans le fauteuil, dont le fauteuil avait les pneus un peu trop lisses. Je lui ai mis un bon coup de taser à Stephen Hawking, ça lui apprendra à mettre les autres en danger, avait fièrement déclaré Cyril à son supérieur hiérarchique qu'il avait chaudement félicité pour son initiative. Bref, promis, Quentin, Pierre, Harold, je jetterai un voile pudique sur vos relations parfois compliquées avec notre rédacteur en chef, qui n'est quand même pas le monstre que vous décrivez, il lui arrive bien de vous parler bien, n'est-ce pas Cyril ?
Silence, chroniqueur de Gazette.
Ok, Zoom Zoom Zen spécial contrôle coercitif, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Noël.
Quentin.
Non, mais c'est bon, j'ai trouvé la technique quoi, pour Cyril Lacarrière. Je le fais courir dans les couloirs de la maison de la radio.
Et comme il court au ralenti,
voilà.
Vous êtes gagnant. Andrea Gruev-Vintila, bonjour.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes docteur en psychologie sociale, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre. Vous avez écrit le premier livre de référence en français au sujet du contrôle coercitif, Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale, paru en 2023 chez Dunod. Un concept, dites-vous, qui pourrait révolutionner la vision de la violence conjugale et sa traduction juridique en France. Pour le moment, ce terme n'est pas inscrit dans la loi. C'est pourtant, d'après vous, le précurseur majeur de la quasi-totalité des féminicides. Que regroupe-t-il ? Pourquoi il serait important de légiférer ? C'est ce que vous allez nous expliquer. Juste le temps de vous présenter une équipe qui fait honneur aux engagements de Radio France en matière de parité, puisque nous sommes 3 bonhommes en studio. Quentin, lui, Cyril Lacarrière, bonjour.
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 Alors,
bonjour.
Nous n'y sommes pour rien. Manon Mariani, notre collègue, est encore un peu grippée aujourd'hui, même si, pour l'avoir eu au téléphone tout à l'heure, j'ai noté une nette amélioration. Elle m'a même demandé des nouvelles de vous, Quentin. Oui, son précieux, c'est comme ça qu'elle vous appelle quand elle a de la fièvre.
Ça va mieux la gorge.
Ça va pas beaucoup mieux. Elle devrait normalement être là néanmoins demain. En attendant, Quentin, dites-nous, les passants que vous avez croisés dans la rue, est-ce que déjà ils connaissaient cette notion de contrôle coercitif ?
Ils en avaient entendu parler, mais sans savoir forcément ce que c'était en détail. Et c'est là que Zoom Zoom Zen intervient dans nos vies. On prend le temps de décortiquer l'air du temps, Mathieu. Des hommes, des femmes, différentes générations au micro d'Inter dans les rues, tout ça c'est avant 16h30.
Face à vous, Andrea, oubliez tout ce que j'ai dit sur lui. Il n'exerce sur nous évidemment aucun contrôle coercitif. Alors oui, on est obligé de finir notre viande au restaurant sous peine d'avoir une retenue sur salaire. Chaque matin, avant de nous mettre au travail, on doit se mettre au garde à vous devant son poster de Jacques Chirac. Une main sur le cœur, l'autre sur le godemiché en latex fixé au mur qui trône au-dessus de son bureau. Mais à part ça, globalement, il est assez facile à vivre. Cyril, vous remontrez pour nous aux origines de cette notion du contrôle coercitif.
Oui.
Merci. Vers 16h30, toujours aucun effort fourni sur le teaser, c'est un homme épuisé qui nous rejoint à cette heure-ci, c'est l'heure de votre sieste.
Il
n'y aura pas un mot de plus gratuitement en tout cas. Vers 16h30, vous pensez peut-être que pour le quiz, je vais esquiver le sujet douloureux du contrôle coercitif. Eh bien non, au contraire, le Zoom Zoom Test sera l'occasion de découvrir qu'aux États-Unis, à travers certains contrats de mariage, on peut dire que le contrôle coercitif est carrément contractualisé. Je sais Cyril, vous aimez ce pays très fort. Après 17h, restez à l'écoute de Zoom Zoom puisqu'on scannera l'actu de ce 4 février et on posera surtout la question, dans un monde de plus en plus instable, comment l'Europe peut-elle se protéger ? Bernard Guetta, député Renew et ex-grande voix de France Inter, éclairera nos lanternes. Mais d'abord, Andrea Gruev-Vintila, première question, on va zoomer sur cette notion avec vous de contrôle coercitif. Déjà, quelle différence on peut faire entre le contrôle coercitif, qui est une expression encore peu connue du grand public, et le mot harcèlement, qui lui est dans toutes les bouches ?
Excellente question, Mathieu Noël. Je vais commencer peut-être par rappeler les chiffres des violences en France. Nous comptons 250 000 de victimes de violences conjugales, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont 84% de mères. Mais parmi ces, parmi ces femmes, dans 8 cas sur 10, ce sont des femmes avec lesquelles les agresseurs ont des enfants. Et c'est précisément ce qui leur permet d'exercer un contrôle et des contraintes sur elles bien longtemps après la séparation. Ce qui nous amène à 400 000 enfants co-victimes selon le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes dont je suis membre, et 4 millions selon ma collègue Nadège Sévra qui est sociologue. 4 millions d'enfants co-victimes signifie un tiers des enfants scolarisés en France. C'est face à ce chiffre et malgré les efforts qui ont été déployés depuis 6 ans, depuis notamment le Grenelle violence conjugale, que les recherches que je présente dans le livre Le contrôle coercitif que vous avez cité, Mathieu Noël, montrent qu'il faut prendre la violence conjugale dans sa globalité. Et c'est pour cela que les recherches montrent que la violence est davantage, la violence conjugale, davantage une question de captivité qu'une série d'agressions. Et c'est en cela que le harcèlement, comme l'isolement, comme la surveillance, dans la vie, on va dire, online et offline. C'est pour cela que le contrôle des ressources, le fait d'obliger ou d'empêcher une femme de travailler, de faire des études, le fait de micro-réguler la vie de quelqu'un, c'est-à-dire d'avoir des règles pour qu'elle réponde dans les 30 secondes de la sonnerie, constitue un tout, un schéma de comportement global dont le harcèlement peut être un moyen.
On va rentrer évidemment avec vous dans le détail dans cette heure qu'on va passer ensemble. D'où ça sort, mais d'où ça sort, ce truc bizarre qui nous transporte, disait le poète.
D'où ça sort, mais d'où ça sort.
C'est vrai que c'est un poète.
Bizarre qui nous transporte.
Ce que fait l'IA est quand même incroyable.
On dirait du Hervé qui chante du La Carrière.
Mais si ça se trouve, c'est Hervé en fait. Il nous l'a pas dit, mais il a composé pour vous un générique à votre chronique. Cyril, il est temps de nous dire en effet le contrôle coercitif, d'où ça sort.
Imaginez une femme qui n'a jamais été frappée mais qui vit dans la peur constante. Elle doit envoyer des photos pour prouver où elle est, justifier chaque euro dépensé. Elle ne voit plus ses amis et s'habille comme il veut pour avoir la paix. Vu de l'extérieur, ce couple sera souvent vu comme un couple normal avec un mec un peu jaloux. Vu de l'intérieur, c'est une prise d'otage. La notion de contrôle coercitif, on la doit aux travaux d'un sociologue américain, Evan Stark. En 2007, il publie un titre que je vous traduis en français, Le contrôle coercitif, comment les hommes piègent les femmes dans leur vie privée. Stark met en lumière les violences des conjoints violents à l'encontre de leurs victimes, mais aussi comment ils les privent progressivement de leur liberté.
Et le sociologue va même jusqu'à faire une comparaison avec les prisonnières de guerre.
Evan Stark explique que les maris violents utilisent les mêmes techniques que les geôliers. L'isolement, l'intimidation, le contrôle des ressources et l'épuisement mental. L'objectif, ce n'est pas forcément de faire mal physiquement, l'objectif c'est de soumettre, de tuer la personnalité de la victime. L'Angleterre a été pionnière en criminalisant le comportement coercitif il y a un peu plus de 10 ans. Depuis, on a compris que c'était le meilleur prédicteur du féminicide. Alors, d'où ça sort la prise en compte du contrôle coercitif et bien de la prise en compte d'une dictature domestique, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Andrea Greve-Vintila, le contrôle coercitif, en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est la matrice de toutes les violences conjugales ?
Alors, Evan Stark, dont vous avez cité le nom et qui n'aurait pas aimé, il nous disait, mais le contrôle coercitif n'a rien d'américain dans la conception. Donc, ne m'appelez pas américain parce que c'est pas, en plus, il avait des origines européennes très claires. Il faut savoir qu'il était travailleur socio-judiciaire, c'est-à-dire travailleur social, avant de devenir universitaire. Et donc, il développe, qu'il propulse véritablement ce concept dans les différentes législations. Ce qu'il notait également, c'est que c'est un... dans son livre de 2007, que vous avez cité également, il note que c'est un comportement, une conduite calculée et malveillante. Donc, ce n'est pas un accident.
C'est pas involontaire. On n'exerce pas un contrôle coercitif sans même s'en rendre compte soi-même. C'est forcément
prémédité. C'est pas ça la question. La question, c'est on le fait pas par hasard. On le fait pas sans avoir conscience, parce que depuis, c'est la question qu'on nous pose souvent. Mais ça veut, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font aux victimes ? Je dirais que la bonne question n'est pas celle-ci. Il y a un certain nombre de renversements de questions dans le cadre du contrôle coercitif. La première, c'est d'arrêter de se demander pourquoi il n'est pas parti et de se demander comment il a empêché de partir. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font ? Et en réalité, la bonne question, c'est est-ce qu'ils ont conscience des bénéfices qu'ils retirent en se comportant comme cela. Et vous l'avez dit très clairement, Cyril, il s'agit d'obtenir l'obéissance de quelqu'un pour ensuite, et Evan Stark était très clair là-dessus, pour ensuite s'assurer le monopole sur les ressources que les femmes amènent dans la relation conjugale ou dans la famille.
Quentin. Si on en parle aujourd'hui, c'est que pour la première fois, un texte officiel fait état de ce contrôle coercitif. Il figure dans le rapport faisant l'état des lieux du sexisme en France, produit chaque année par le Conseil à l'égalité. Le terme est clairement inscrit dans le rapport publié fin janvier, donc très récemment. Ça, c'est une première étape importante.
Merci beaucoup, Quentin, d'avoir relevé. Oui, effectivement, c'est la première fois que le contrôle coercitif rentre dans cet état qui est dans ce rapport qui fera date, puisque en dehors de l'entrée du contrôle coercitif qui est déjà en soi un événement, ce rapport qu'on doit au travail du Haut Conseil à l'égalité avec des collègues du CNRS, Pascal Huguet et Didier Chavrier, qui est universitaire également, avec la présidence du Haut Conseil de Bérangère Couillard et la présidence de la commission stéréotype Muriel Réus et Céline Pic. Il faut savoir que ce rapport montre que la plupart des femmes ont subi du sexisme, déclarent avoir subi du sexisme, et fait la distinction entre le sexisme paternaliste, où les femmes devraient soi-disant être protégées parce qu'elles seraient plus fragiles, etc., et le sexisme hostile qui les sanctionne lorsque justement elles désobéissent. Et c'est là précisément qu'on a le lien avec le contrôle coercitif. Tant qu'une femme en réalité se soumet aux règles installées par son conjoint, son compagnon, son partenaire, elle est en relative sécurité. C'est lorsqu'elle désobéit
qu'elle est en danger,
qu'il va y avoir un nouveau comportement de contrainte qui va s'ajouter, et ces comportements dans leur globalité forment ce schéma, cette cage dont parle Evan Stark dans son livre, comme une sorte de cage dont si la femme essaie de s'échapper, il y a un nouveau barreau.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Une violence invisible et d'autant plus redoutable. Zoom aujourd'hui sur la notion de contrôle coercitif dans Zoom Zoom avec la docteure en psychologie sociale, auteure du livre référence, Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale. Andrea Grueff-Ventila est notre invitée. Andrea, à quel moment il commence ce contrôle coercitif? C'est quoi, comme on dit aujourd'hui vulgairement, les red flags qui doivent nous interroger?
Alors, ma collègue britannique Jane Monckton-Smith, qui est ancienne policière et professeure d'université aujourd'hui. D'ailleurs, ce lien, comme pour Evan Stark, oui, entre la pratique et l'université, c'est quelque chose qui est le fil rouge également dans mon livre, montre qu'il y a 8 étapes qui peuvent commencer par des déclarations d'amour soudaines, très rapides, et quelque chose qui est perçu par la victime comme de l'amour de la part de son partenaire, et qui en réalité, pour lui, signale le fait qu'elle est déjà engagée dans la relation et qu'elle lui appartient. Donc, alors, c'est pas le love bombing en soi qui est un red flag, mais le fait qu'il a des significations, que des déclarations d'amour soudaines, rapides et un engagement rapide dans la relation signifient des choses différentes pour la victime et pour les agresseurs. Et ce qui est intéressant avec les agresseurs, j'espère qu'on aura l'occasion de parler de la personnalisation du contrôle coercitif, mais il faut voir ces agresseurs comme des... ils ne sont pas à la première relation de couple, et souvent ils s'entraînent d'une relation à l'autre. Il faut les voir un peu comme des athlètes qui s'entraînent, d'abord au niveau du club, ensuite au niveau régional, national, international.
Ça améliore malheureusement.
Et puis certains qui arrivent au niveau olympique. Et la question, c'est est-ce que nous avons dans la législation, en droit français, vous avez tout à l'heure cité le cas de la Grande-Bretagne, est-ce que nous avons en droit français, pénal comme civil, comme dans d'autres branches du droit, est-ce que nous avons des textes qui nous permettent d'empêcher ces comportements? Est-ce que nos professionnels de la justice, de la protection de l'enfance, nos policiers, nos gendarmes sont suffisamment formés pour attraper ces tactiques, cette expérience, expertise qui arrive au niveau olympique?
C'est pas le cas pour l'instant, ça passe sous les radars.
Pour l'instant, il y a beaucoup de comportements qui passent sous les radars. Je vais vous donner un exemple tiré de la jurisprudence de la Cour d'appel de Poitiers qui a été historique fin janvier 2024, rendue par la première présidente Gwenola Joly-Coz sur réquisition du procureur général Éric Corbeau, qui retient que la femme perd son travail, la femme qui était maman d'une petite fille, elle perd son travail parce que privée de sommeil par son conjoint, donc comportement qui est parfaitement non pénal, non sanctionnable. Elle était également empêchée d'accéder au frigo de la famille pour se servir d'une nourriture fraîche, parfaitement non sanctionnable en droit pénal. Mais dans le modèle du contrôle coercitif, ces deux comportements sont des privations de ressources. Et c'est là où le modèle de Stark est extrêmement important, parce qu'il s'agit d'une privation progressive de droits fondamentaux et de ressources, c'est-à-dire de liberté, d'autodétermination, d'autonomie, parfois de droit d'accès à la santé et d'accès aux ressources essentielles pour vivre.
Evan Stark, que vous citez, le sociologue américain qui a théorisé ce contrôle coercitif, a listé quatre tactiques des auteurs de contrôle. L'isolement, donc le fait peut-être de ne plus voir ses amis. Le contrôle, alors peut-être avec des outils numériques aussi aujourd'hui pour répondre à un message. L'intimidation, et puis enfin la violence. On pourrait aussi parler de l'emprise, mais c'est au-delà de ça.
Alors l'emprise, c'est ce qui a préoccupé beaucoup la France, et ne serait-ce que ça pourrait être une alerte pour les scientifiques comme nous sommes, parce qu'il n'y a pas d'autres pays qui s'en servent pour définir les violences conjugales. En fait, elle est rentrée, mais je veux pas qu'on lance un débat là-dessus parce que c'est déjà éclairci dans le. Non, c'est pas sans fin. C'est très simple. Le fait, le législateur a eu besoin de caractériser une violence dont il a compris qu'elle n'était pas que physique et qu'il y avait une question de domination. Sauf que la notion d'emprise, qui est très attirante et très intuitive. En fait, elle peut s'exercer de l'un sur l'autre, homme comme femme, alors que nous savons que la violence conjugale, on l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui est très fortement genré, et la notion d'emprise, outre le fait qu'elle n'est ni scientifiquement ni juridiquement définie, elle ne permet pas d'expliquer la réalité du phénomène. Elle ne permet pas d'expliquer le fait que les femmes sont majoritairement ciblées et qu'il s'agit d'une discrimination à l'encontre des femmes, donc déjà d'une atteinte à un droit fondamental.
Ce qui est vraiment révolutionnaire, important dans le terme de violence, de contrôle coercitif, c'est cette notion de placer les violences conjugales dans une logique de captivité plus que d'agression pure.
Oui.
C'est ça qu'il faut retenir.
C'est exactement cela, et c'est déjà pensé, et c'est là où le fait que Evan Stark soit travailleur socio-judiciaire est peut-être intéressant, c'est qu'il a pensé la question des enfants. Son dernier livre d'ailleurs s'appelle « Les Children of Coercive Control », les enfants du contrôle coercitif. Il pense les enfants comme co-victimes d'emblée, c'est-à-dire que tout ce qui est fait à la mère, le fait qu'elle soit humiliée, le fait qu'elle soit agressée physiquement, le fait qu'elle soit privée de ressources ou empêchée d'accéder au frigo, empêchée de dormir, etc., atteint inévitablement l'enfant, puisque ça diminue la capacité parentale de la maman.
Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de cette notion de contrôle coercitif, Quentin, notre Chateaubriand du micro-trottoir, qui manie les mots comme personne, qui parfois en invente même, comme hier.
Vous avez rajouté des humains ?
Et allez-vous poser la question, non pas sous vos humains, mais sous vos applaudissements, évidemment, parce que les gens vous aiment.
C'est presque joli.
Oui, c'est presque joli, mais c'est pas français.
C'est entre huées et hurlements.
Très bien.
C'était l'euphorie à Rouen. Ma première rencontre dans la rue aujourd'hui, c'est Clara. Elle travaille pour le SAMU social de Paris. Un blouson en cuir, un casque de vélo à la main. Elle lit le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Le contrôle coercitif, oui, je connais.
C'est quoi ?
Je ne pourrais pas dire la définition exactement, mais c'est une notion qui est rentrée il n'y a pas longtemps en justice. Alors, je le sais parce qu'en fait, j'accompagne aussi des femmes victimes de violences.
Eh oui, alors elle, qu'est-ce qu'elle voit dans son quotidien professionnel ?
Alors, des trucs très concrets, ça peut être l'interdiction de s'habiller comme elle le souhaite. Ça peut être très ridicule, ça peut être un pull un peu trop ajusté, en fait. Ou ce pantalon met trop en avant tes fesses. Il y a aussi un contrôle, et on le voit sur les personnes qui font moins d'études, sur tu n'es pas capable de pouvoir signer ces papiers, ces documents. Et là, il y a tout l'aspect financier qui se joue aussi sur le contrôle.
On isole quelqu'un de l'administratif, quoi.
Aussi. Et c'est vraiment des exemples qui peuvent se ponctuer au quotidien. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes qui sont victimes et les personnes qui accompagnent ces victimes ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite.
Mais pour elle, les choses actuellement sont en train de changer.
Je pense que de plus en plus, en fait, les jeunes femmes et la génération qui arrive est super parce que en fait, c'est un sujet qui n'est pas tabou, ce qui n'était pas le cas de ma génération. Alors, j'ai pas non plus 60 ans, mais.
Non, vous avez la quarantaine.
Ouais, mais dans les années 2000-2010, il n'y avait pas encore cette notion. Et oui, on se rend compte qu'il y avait plein de relations qui n'étaient pas très saines, en fait. Moi, je me suis rendu compte. Évidemment, c'est très dur pour une femme de reprendre sa liberté, puisque accéder à un logement, avoir un travail, et souvent quand on a des enfants, parce que souvent, en fait, l'emprise, elle se fait aussi quand on a des enfants. Mais il y a des aides qui sont là, il y a des associations, et la liberté n'a pas de prix.
La liberté n'a pas de prix. Plus loin, je fais la connaissance de cet homme. Il a la soixantaine, manteau noir et cigarillo à la main. Il découvre...
Coercitif, je connais. Contrôle, je connais. Mais... Ouais. Contrôle coercitif, contrôle des sens, des pulsions, des choses comme ça.
Non, pas vraiment. Je lui fais lire la définition.
Ah oui, c'est contrôler quelqu'un. C'est pas se contrôler. Oui. Okay.
Souvent des hommes sur des femmes. Vous pouvez me parler de ça ?
Je dirais que non. Non, c'est très personnel.
Ah oui, d'accord.
Parce que je suis actuellement en procédure de divorce.
Ah oui, d'accord.
Oui. Et je suis pas le bon candidat pour poser ce genre de questions parce que je suis confronté à ce genre d'accusations me concernant. avoir exercé un certain nombre de violences à caractère psychologique, coercitif. Vous l'avez dit, le contrôle, par exemple, la mainmise sur...
Sur l'administratif ?
Sur l'administratif.
Et ça a été votre cas ?
Oui, c'était parfaitement mon cas. Mais je l'ai fait sans avoir l'impression de contraindre de quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je trouvais ça normal de le faire.
Je lui demande s'il se sent coupable, s'il comprend, s'il y pense.
Ben non, justement, c'est ça le problème. Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi on m'accuse de... Alors, oui, il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être des choses que j'ai pu faire sans m'en rendre compte. Ça, c'est possible. En reproduisant des schémas familiaux, éducatifs, des choses comme ça. Voilà, j'ai peut-être fait ça, mais j'en sais rien. Mais je suis en pleine interrogation là-dessus.
J'arrête maintenant ce jeune homme. La coupe de cheveux mulée, bien courte sur les côtés, il retire ses écouteurs filaires qui sont dans ses oreilles.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Volodia.
Vous avez quel âge ?
26 ans. Le contrôle coercitif ? Aha, je l'ai beaucoup entendu. Là, ça me vient pas... Enfin, j'ai pas la définition qui me vient tout de suite. Si tu me donnes quelques billes, ça va me revenir et je vais pouvoir... Voilà, super, merci.
Ah oui, je lui ai donné quelques billes et il me confie la complexité à sortir des schémas.
Bah, on est plus au fait... Enfin, je vais pas faire de l'histoire des idées bateau, mais on est le fruit d'un système, d'un mode de pensée. Notre éducation, elle est conditionnée par le patriarcat. Et après, chez nous, du coup, dans nos discussions de couple, ça revient, mais peut-être sur des formes, sur des formes plus... Enfin, ce sujet-là revient forcément. Et du coup, en tant qu'homme, il faut le plus possible se déconstruire, avancer sur ces questions et faire au mieux. Mais t'as vraiment le truc entre le moule dans lequel, duquel t'es issu et tout ce que tu réalises en grandissant. Et il y a des choses que t'arrives à corriger, il y a des choses qui persistent, qui sont intrinsèques et qui sont dures à débloquer, quoi, à dérégler. Mais on doit y arriver, on avance, quoi, on continue.
Le contrôle coercitif ne laisse pas de bleu visible. Il s'installe dans les habitudes, les silences, les petites renonciations quotidiennes aussi. Et même si la jeune génération semble avoir identifié, il faut sans cesse lutter pour ne pas se laisser et pas le laisser entrer au sein du couple, pour ne pas banaliser et pour ne plus appeler amour ce qui est en réalité une prise de pouvoir.
Quentin, vous avez évidemment bien fait votre boulot parce que notre invité, Andrea Gruev-Vintila, avait envie de réagir déjà en plein milieu du micro-trottoir. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ces témoignages ?
Alors, j'allais déjà vous féliciter parce qu'effectivement, le micro-trottoir est excellent et je trouve déjà que c'est une avancée que les personnes connaissent le terme. Ce qui est intéressant dans ce que disait Clara, mais aussi dans ce que disaient les deux messieurs que vous avez interviewés après, c'est cette notion de personnalisation du contrôle coercitif. C'est-à-dire que de tout le schéma qui est déployable de comportements par lesquels l'un des deux partenaires peut mettre en captivité l'autre, alors c'est pas n'importe lequel, ils ont raison de souligner que c'est souvent un homme qui arrive à mettre en captivité la femme. Et d'ailleurs, les études scientifiques nous montrent que même si les femmes prennent ponctuellement le contrôle sur tel ou tel moyen de la vie de l'homme, si par exemple, elles contrôlent, regarde qui l'a appelé ou lui disent « tu sors pas avec un tel », les études scientifiques de mon collègue Andy Myhill, qui est britannique, qui est ancien policier lui aussi, montrent que les femmes n'arrivent pratiquement jamais à installer dans la vie des hommes une terreur totale et une captivité totale, telle que les hommes arrivent à installer dans la vie des femmes, parce que le regard social le leur permet davantage qu'il ne le permet aux femmes. C'est-à-dire que les femmes, lorsqu'elles ont un comportement qui contredit le stéréotype de genre, le fait d'être douce, soumise, etc., nous les sanctionnons beaucoup plus vite déjà, socialement. On les regarde de travers. Une femme un homme qui est en colère est un homme déterminé, qui veut faire respecter l'ordre. Une femme qui est en colère est une femme...
hystérique, comment il dit.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jugement social intervient très tôt et dissuade les femmes de continuer dans cette voie. Donc ça donne un avantage, ce qui ne fait pas que le contrôle coercitif est le fait des hommes parce qu'ils sont plus méchants et des femmes parce qu'elles sont plus gentilles, mais parce que les normes sociales le leur permettent davantage. Et d'ailleurs, combien de fois on n'a pas entendu telle ou telle famille dire à madame qui voulait se séparer, mais ma chérie, si tu étais plus gentille avec lui, si tu prenais plus soin, etc.
Quentin. On a entendu cet homme en plein divorce, à qui on reproche cette forme de violence, ce contrôle coercitif. Qu'est-ce qu'il raconte, ce témoignage, à votre avis ?
Alors, je voudrais dire deux choses à partir de ce témoignage qui est très intéressant, c'est le fait qu'il peut y avoir des couples où les rôles sont répartis et que personne ne conteste. Donc ça veut dire que le rôle fonctionne comme ça et que ça va. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand madame désobéit à monsieur ? Qui prend la décision dans ce cas-là ? Et là, ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, mais aussi bien Clara, c'est que dans tout le spectre de ce que j'avais commencé à dire, dans tout le spectre de comportements qui peuvent être déployés envers la partenaire, ces agresseurs choisissent celui qui est le plus efficace contre cette partenaire-là. Ce qui explique pourquoi, dans beaucoup de cas, la violence physique n'a pas besoin d'être présente. Et d'ailleurs, on voit dans une décision de la Cour d'appel de Douai, cette fois-ci, les conseillers de la Cour d'appel qui retiennent la déclaration de la victime, qui dit « il a compris que la violence physique ne marchait pas avec moi, donc il utilise des humiliations et de la violence psychologique ». Donc ça enlève totalement le mythe selon lequel la violence physique, c'est ce qu'il y a de plus grave, puisque le contrôle coercitif montre que les agresseurs utilisent le moyen qui est non pas le plus grave, mais le plus efficace. Et c'est la notion de personnalisation, c'est-à-dire de quel est le moyen qui, de cette agression-là, sur cette victime-là, fonctionne et le plus efficace pour obtenir son obéissance.
Ça me fait penser à un autre terme qui a été à la mode quelques années, c'est pervers narcissique. Est-ce que les pervers narcissiques, qui s'adaptent aussi parfois à leur interlocuteur...
Mais Quentin, je dirais que pour le droit, la question n'est pas une question de personnalité. Mmh. Ce qui nous intéresse dans le contrôle coercitif, c'est que c'est un concept opérationnel qui est mobilisable par les magistrats, qui est documentable en protection de l'enfance et qui porte sur des comportements visibles, donc quelle que soit la personnalité de quelqu'un, est-ce que lui... ou parfois à elle, dans les rares cas, a des comportements qui restreignent les libertés et les droits fondamentaux de l'autre partenaire, ou de l'enfant.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Le contrôle coercitif n'est pas encore officiellement reconnu en droit français, raison pour laquelle Pierre et Quentin n'ont pas encore attaqué Cyril Lacarrière en justice. Notre rédacteur en chef qui, chaque matin, après son édito média, passe chez eux pour les sortir de leur lit au clairon. Un jour, il devra payer, mais en attendant, jouons au Zoom Zoom Test.
Moi, il s'arrête à l'interphone maintenant. Il y a 5 étages, donc...
Ah oui, il peut pas avec son lumbago.
Vous avez de la chance parce qu'au moins, il passe avant, donc vers 5h du matin.
Le générique guilleret de l'émission Motus peut paraître, j'en ai conscience, quelque peu déplacé dans une émission consacrée à un sujet aussi grave que le contrôle coercitif que certains hommes exercent sur leurs compagnes. Néanmoins, je ne me défilerai pas aujourd'hui puisque le quiz va bien nous confronter aux cas les plus spectaculaires du contrôle coercitif, y compris contractuel. Partons tout d'abord aux États-Unis. Pays de tous les possibles, y compris donc de la possibilité de contractualiser le contrôle coercitif. Souvenez-vous, Jackie Kennedy, une sacrée pépée d'après notre rédacteur en chef, qui assurait, on le rappelle, la sécurité du président Kennedy à Dallas en ce funeste 22 novembre 1963. « Oh, mon chemisier !» s'exclamera Jackie. « Ça compte pas, j'étais en pause goûter », se défendra quant à lui Cyril devant la commission d'enquête. Espérons qu'il se défende mieux devant la prochaine commission qui l'attend, celle de l'audiovisuel public. Bref, après Kennedy, Jackie va épouser l'armateur grec Aristote Onassis, non sans avoir signé un contrat de mariage de 170 clauses, dont le nombre de nuits à passer ensemble chaque semaine, le nombre de rapports sexuels à avoir chaque semaine, ou le nombre d'orgasmes à procurer chaque semaine.
A, B et C.
B et C, voilà qui commence bien pour Quentin, c'était la réponse. Ah, bravo Pierre, vous marquez enfin un point. Merci. Dans ce quiz, oui, le contrat de mariage entre Onassis et Jackie Kennedy spécifiait le nombre de nuits que le couple devait passer ensemble chaque semaine. Après, sans clause plus précise, on ne voit pas à quoi ça sert. Par exemple, Cyril dort toutes les nuits à côté de sa femme, mais... Il pourrait dormir au Novotel, que ça changerait pas grand-chose. Hein. Ce genre de contrat de mariage n'est pas inédit. Je suis dans le monstre. N'est pas inédit entre stars. Tiens, savez-vous ce que contenait le contrat de mariage de Nicole Kidman et Keith Urban? En cas de divorce, le rocker Keith Urban ayant une hygiène de vie qu'on peut décrire comme pire que celle de la Marianoche. Elle lui verserait 0$ s'il touchait à la poudre de perlimpinpin ou à la bouteille. Il aurait droit à 900 000$ chaque année par année de sobriété pendant le mariage.
Wow.
Ou il aurait droit à une nouvelle Ferrari à chaque cure de désintoxication qu'il accepterait de faire.
Attendez, je dirais A. Vous jetez pas. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles?
Il peut y avoir peut-être plusieurs réponses.
Les trois. B et C?
Non.
A et C.
Ça semble trop compliqué. Non, je dirais juste A.
Personne n'a la bonne réponse. C'était deux réponses. Les réponses A et B.
Ah et non.
« Je veux aimer quelqu'un comme toi », avait dit Keith à Nicole Kidman, qui lui avait répondu « Ok, mais je sens à ton haleine que tu n'es pas un amateur de minéral, mettons ça par écrit. » Hélas, le contrôle coercitif n'est pas toujours soigneusement contractualisé, il est parfois sauvage. Direction l'Autriche, à la rencontre du boss de fin du contrôle coercitif, Wolfgang Prikopil. Son nom d'antalgique ne vous dit rien, et pourtant c'est lui qui avait séquestré Natacha Campouche pendant 7 ans. Un monstre qui abritait pourtant un cœur, puisque lorsque la malheureuse a réussi à s'échapper, le sentimental Wolfgang s'est jeté sous un train. D'après vous, comment Natacha Campouche a-t-elle réagi à la mort de son odieux tortionnaire? En organisant une fête sur les rails où il s'était suicidé? Au contraire, terrassée de chagrin, elle demanda à rester seule avec son cercueil? Ou elle garda pendant des années une photo de son Wolfgang dans son portefeuille?
B et C.
Parce que B. B, syndrome de Stockholm, un peu le B.
Peut-être, ouais.
Et c'est la photo.
Ouais, je dirais juste B.
Les deux.
L'analyse est bonne, Quentin, et c'est une bonne réponse. C'était les B, et c'est effectivement...
De là à faire une fête.
Est-ce là, comme vous le dites, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm qui fait qu'aucun membre de l'équipe de Zoom Zoom n'a jamais démissionné malgré l'existence de Cyril? Probablement. Et pour finir, direction...
Ah, ça va nous départager.
Ah, la Californie. Ah, on part en Californie, avec Julien Clerc. Nous sommes en 1977. Une autostoppeuse nommée Colin Stan monte dans la voiture du sympathique Cameron Hooker, visiblement pas inquiète que son patronyme signifie pute en anglais. Elle est d'autant plus rassurée que ce bon vieux Cameron, toujours prêt à aider son prochain, est accompagné de sa femme et de sa fille. Pourtant, rétrospectivement, Colin se dira qu'elle n'aurait jamais dû monter dans cette voiture, car elle va finir enfermée 23 heures par jour dans une boîte de 1 mètre carré pendant 7 ans. Elle va être mise dans le chenil familial, contrainte de manger avec les chiens et forcée d'aboyer pour communiquer. Ou elle va être enfermée dans une pièce noire pour écouter les Bee Gees pendant 18 jours d'affilée, Cameron étant un grand fan des Bee Gees.
B.
Je vous propose une autre réponse.
A et B.
Une seule réponse.
A et B.
Non, une seule réponse.
Non, bah c'est...
B.
C'est bizarre.
Devant tant de nullité, je dois dire non, quand ça c'est trop tard, c'était la réponse A, effectivement. Pire que devoir se farcir les Bee Gees pendant 18 jours, être enfermé dans une boîte d'un mètre cube pendant 7 ans.
C'est pour vous, Pierre.
Pas mal.
Pourtant, comme le dit la chanson, Colin est malgré tout restée vivante, ce qui tient du miracle, sachant qu'elle était donc enfermée dans une boîte rangée sous le lit conjugal, boîte dont elle n'avait le droit de sortir que pour manger et satisfaire les désirs de Cameron, la pute. Une histoire qui, j'espère, vous incitera à adoucir votre témoignage contre Cyril. Au prud'homme, il ne mérite pas tant de haine. Victoire, deux personnes, un partout.
Alors, égalité.
Vous sauvez l'honneur.
Il n'aura jamais gagné.
On m'a volé deux fois.
C'est ce que l'histoire retiendra.
Exactement.
C'est que Pierre Courade n'aura jamais remporté le quiz. Vous pouvez partir la tête basse, Pierre. On n'a plus besoin de vous. Et on peut revenir à notre sujet fil rouge cet après-midi. Vu de l'extérieur, on l'a dit, un couple normal, bien sous tout rapport. De l'intérieur, une femme quasi prisonnière de son conjoint. Et j'insiste sur cette notion de captivité. On continue de zoomer sur la notion de contrôle coercitif avec la docteure en psychologie sociale Andrea Gruev-Vintila, notre invitée. Andrea, est-ce que le contrôle coercitif débouche forcément sur de la violence physique ou pas? Au regard de ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression que c'est, même si c'est pas dans l'équation, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte en fait.
Alors, vous savez, vous avez dit tout à l'heure, ça a été évoqué sur le fait que le contrôle coercitif a été conceptualisé à partir de l'étude des comportements sous stress extrême des aviateurs américains qui sortaient des camps de prisonniers de guerre. Avec la charte de Biderman évoquée et qui montrait qu'en fait l'isolement, la privation de ressources, l'épuisement était suffisant pour obtenir l'obéissance de quelqu'un. Vous connaissez l'expérience très célèbre en psychologie sociale de Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité qui montre qu'en réalité, pour obtenir l'obéissance de quelqu'un, nous n'avons pas besoin de violence physique. Dans le modèle du contrôle coercitif, la violence physique apparaît quand les autres moyens ont échoué. Donc en fait, elle apparaît un peu comme un joker dans un répertoire. Parce que la violence physique, elle n'est pas, comment dire, elle coûte de l'énergie à l'agresseur. Il a tout intérêt, et d'ailleurs la meilleure obéissance s'obtient lorsque la victime ne désobéit pas, entre guillemets, d'elle-même. Donc la définition la plus courte qu'a donnée Stark du contrôle coercitif, vous savez laquelle c'est ?
Livrez-la nous.
C'est installer dans l'esprit de la victime le prix de sa résistance. C'est-à-dire qu'elle sait ce qui lui coûte de désobéir aux règles qui sont installées. Donc, ce qui explique que bien souvent, on n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'avoir recours à de la violence physique et il peut utiliser d'autres moyens. Par exemple, la violence économique, la violence psychologique, le harcèlement judiciaire. C'est pour ça que dans la deuxième édition du livre sur le contrôle coercitif qui sort en mai, on a rajouté des études qui ont été publiées entre 2023 et cette année sur cette question de harcèlement judiciaire, notamment parce qu'elle a fait l'objet d'une jurisprudence du tribunal judiciaire de Sens où le juge a reconnu que la procédure est mobilisée pour continuer le contrôle coercitif post-séparation de monsieur sur madame.
Ah oui, donc ça avance, quand les choses avancent bien.
Comment l'extérieur, et je pense aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, les amis, la famille, peuvent se rendre compte qu'une femme est victime de contrôle coercitif? Est-ce qu'on, si on a un couple d'amis et qu'on soupçonne quelque chose, il faut le dire? Comment on l'aborde?
L'indicateur principal, c'est pour nous en psychologie sociale, c'est l'isolement de la personne. Donc ça, c'est quelque chose que j'enseigne moi à nos étudiants de première année.
Si on n'a plus de contact avec une amie, par exemple.
Si on n'a plus de contact avec quelqu'un, de toute façon, il faut aller chercher la personne. quelle qu'elle soit. Parce que cette question d'isolement, et j'étais très contente que ça soit souligné très clairement tout à l'heure, parce que, surtout en psychologie sociale, on sait que tout prédateur qui s'attaque à une proie s'attaque à celle qui est la plus isolée par rapport au groupe. Même un tigre qui attaque un troupeau d'antilopes s'attaque à celle qui est la plus marginale par rapport au troupeau, parce qu'elle est allaitante, parce qu'elle est gestante, etc. Et parce qu'elle n'a pas de soutien, le soutien des autres. Et c'est précisément ce qui a permis la mise en évidence de l'isolement comme facteur, comme porte d'entrée de la coercition avec les aviateurs militaires préparés, des hommes préparés mentalement, physiquement, etc. Donc ça veut dire que le contrôle coercitif fonctionne pas parce qu'il y a une vulnérabilité individuelle de la victime, mais parce que la personne a la possibilité et la capacité de l'isoler, de la contraindre, de la priver de ressources, et qu'elle n'a pas besoin, souvent, d'utiliser de la violence physique, ou alors ça peut être des violences physiques tout à fait marginales, une bousculade, tirer les cheveux, etc.
Un texte avait été adopté par l'Assemblée nationale l'an dernier à l'initiative de Sandrine Josso, la députée qui avait été droguée par le sénateur Joël Guerriau. Un texte supprimé ensuite par le Sénat. Qu'est-ce qu'il prévoyait ce texte ?
Alors, le texte fait suite à une proposition de loi déposée en décembre 2024, donc quelques mois après la jurisprudence historique de la Cour d'appel de Poitiers. Et prévoyait, donc la proposition de loi initiale d'Aurore Berger, qui était députée à l'époque, prévoyait d'incriminer le contrôle coercitif en tant que violence psychologique. Vous avez bien compris qu'il est beaucoup plus large que la violence psychologique, que la violence psychologique elle-même, comme le harcèlement, comme la violence économique, comme le contrôle du temps, de l'argent, du corps, etc., peuvent être des moyens de contrôle coercitif. Et donc, on a laissé passer le nouvel an, et puis on avait quelques jours pour tenter d'écrire de corriger l'amendement. Et donc, effectivement, Sandrine Josso l'a porté. On l'a coécrit avec mes collègues Benjamin Morand-Puech, qui est professeur agrégé de droit, et Alice Dejean de Labatie, qui est elle aussi prof de droit. Sandrine Josso l'a porté jusqu'à l'adoption transpartisane. Il a été salué par les députés. Et ensuite, le texte est parti au Sénat, qui a travaillé tout seul en commission de loi, c'est-à-dire des juristes qui n'ont pas tenu compte, enfin qui ont, et c'était notre crainte, qu'on ait un texte qui soit parfait d'un point de vue juridique, mais qui ne corresponde pas à la réalité du terrain, et qu'on ait, un peu comme en Angleterre, une loi qui soit opérationnelle, mais pas applicable. Et c'est ce que le Sénat a fait, en réduisant le contrôle coercitif à quelques moyens de tout l'ensemble du spectre qui peut être mobilisé. Et là, la loi va devoir revenir à l'Assemblée nationale. En tout cas, Aurore Berger, ministre, a exprimé dans ses vœux la semaine dernière le fait qu'elle allait revenir sur le contrôle coercitif dans le cadre d'un projet de loi, avec aussi l'imprescriptibilité des crimes contre les enfants, et c'est important de le souligner.
Comment ils sont touchés, les enfants ? Pardon, mais l'impact que ça a, est-ce qu'ils servent de moyen de pression ?
Ah, alors, les enfants sont touchés de mille et une manières. D'abord, il faut voir ces enfants comme si c'était des enfants qui grandissaient avec une mère qui était prisonnière en Afghanistan ou en Iran. Vous voyez que si on pose la question comme ça, moi je viens des études sur le terrorisme et sur le totalitarisme politique, donc ces analogies me parlent, mais il faut voir ces enfants comme s'ils étaient en France, donc on pourrait se dire qu'ils ont une vie normale, mais en réalité leur mère est prisonnière. Ces enfants ont appris depuis longtemps que s'ils veulent que leur mère reste plus ou moins en sécurité, il faut qu'ils se comportent d'une certaine façon. Alors cette certaine façon, les enfants l'apprennent depuis tout petit, ils savent que s'ils font telle ou telle chose, ou s'ils parlent à telle ou telle personne, ou s'ils ont telle ou telle activité, alors leur mère ou eux-mêmes risquent de subir des représailles de la part du contrôlant coercitif. Mais ça veut dire que pour les enfants, et j'ai à l'esprit une petite fille qui est collégienne et qui nous disait ne pas pouvoir se concentrer à l'école parce qu'elle a peur dans l'état dans lequel elle va trouver sa mère lorsqu'elle revient. Donc ça nous enlève de la fausse idée selon laquelle les enfants témoins seraient les enfants qui voient ou qui entendent des comportements de violence psychologique, puisque l'hypervigilance des enfants est énorme en permanence. C'est en réalité comme si ces enfants étaient injectés d'un neurotoxique, le stress chronique extrême dépassé, tous les jours.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Je l'ai souvent représenté comme un homme dépravé, habité par le démon. Je lui ai prêté toutes sortes d'aventures, la plupart situées dans des saunas libertins de la capitale, alors qu'on sait désormais que c'est Quentin qui a une obsession des saunas. Non, aujourd'hui, en découvrant une story de Pierre Courade dans laquelle il se remémorait avec émotion la cérémonie des JO d'Albertville, j'ai eu honte d'avoir fait de lui un bambocheur vicieux. Lui qui a expliqué à ses followers qu'il avait suivi cette cérémonie d'ouverture d'Albertville avec, je cite, sa mini-torche olympique qu'il avait eue lors du passage de la flamme à Lourdes. Une story bouleversante qui nous rappelle que même Pierre Courade, même Jeffrey Epstein ont été un jour des enfants innocents. Pierre, cette précision étant apportée à votre dossier, ce parallèle étant effectué aussi, vous pouvez nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur le contrôle coercitif en une minute chrono.
Oui, le contrôle coercitif aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, une notion qui a fait son chemin pour expliquer les violences subies par les femmes. C'est ce qu'est venu nous expliquer notre invité Andrea Gruaf-Vintila, auteur d'un livre référence à ce sujet. Pour elle, le contrôle coercitif, c'est un schéma de comportement global. C'est à la fois calculé et malveillant. L'homme qui exerce ce contrôle coercitif en est totalement conscient. L'objectif est simple, il veut enfermer sa compagne comme dans une cage. À chaque désobéissance, une nouvelle contrainte, un nouveau barreau, privation des ressources, régulation de la vie, règles pour être toujours joignable. Le contrôle coercitif s'inscrit donc plus dans une logique de captivité que dans une série d'agressions. Mais c'est lui qui est la matrice commune à toutes les violences conjugales. Le combattre, c'est donc s'attaquer à la racine du mal. Et pourtant, il n'est toujours pas inscrit dans la loi. Alors que pour Andrea Gruaf-Vintila, inscrire noir sur blanc le contrôle coercitif dans la loi permettrait de révolutionner la vision de la violence conjugale. Elle serait aussi comprise comme un tout, d'autant qu'à travers les femmes, ce sont aussi les enfants qui sont victimes.
Merci beaucoup, Pierre. Quel plaisir de retrouver chaque mercredi Harold Barbet. Bonjour Harold.
Vivre au quotidien avec un individu qui exerce sur toi un contrôle coercitif, c'est un peu comme tenter de retirer les élastiques autour d'une paupiette de veau en sauce. Quoi que tu fasses, t'es certain de toujours t'en prendre plein la gueule. Quand j'ai lu la doc qu'on m'a envoyée, j'ai appris qu'en ce qui concerne les comportements manipulateurs et de contrôle coercitif de certains hommes envers leurs conjointes, un mythe survivait comme quoi un conjoint violent pourrait tout de même être un bon père. Une affirmation qui peut rejoindre d'autres affirmations tout aussi stupides comme « après la pluie, le beau temps », « pleure, tu pisseras moins », ou encore « ce n'est pas car on est reconnu coupable de détournement de mineurs qu'on ne fait pas un bon animateur ». Pour être honnête, au début, je pensais que le contrôle coercitif, c'était une prise de balle réussie de l'extérieur du pied dans un match de football. Un geste technique rare, un truc un peu classe. Je me voyais déjà mon passé de commentateur sportif refaire surface. La carigny au dos au but. On s'est bien fait le contrôle coercitif. La carigny qui s'échappe et qui frappe. Au-dessus, encore. Quelle déception, ce joueur, assurément. Mais ça n'est pas ça. Et c'est dommage, parce que j'aurais tellement aimé commenter l'échappée d'une femme face au contrôle coercitif qu'exerce sur elle son conjoint, Carole qui s'échappe. Elle esquive la dernière remarque à la contre Fabrice. Fin de tristesse. Récupération des clés de la voiture. Elle arme sa reprise et frappe Fabrice dans les bonges. Bonge, 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 bonge. Et c'est fini. C'est fini. Carole est enfin libre. La fin du match a été sifflée. Regardez-la s'échapper au loin, tandis que Fabrice gît sur le sol de la cuisine comme une merde. La respiration haletante, tel un sanglier asthmatique. Une victoire méritée qui fait plaisir à voir, n'est-ce pas Patrick? Oui, totalement méritée. Carole va pouvoir vivre, profiter de la vie, redécouvrir les joies du sexe avec des partenaires qui l'inspirent et la respectent. Bravo Carole, donne-toi à fond et casse des bites. Ou fais le ciseau avec des meufs, ainsi que ce qui te rendra heureuse, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours être doux avec les autres.
Oui, mais...
On ne sait pas sous quel contrôle ils évoluent à la maison et il faut inciter les gens à parler. Et aujourd'hui, je vais parler, car je veux dire stop. Il y a chez moi quelqu'un qui exerce un contrôle et une emprise malsaine sur ma personne. Francis Barbet, 14 ans. Un schéma assez classique. Il rentre tard sans prévenir, qu'il y ait l'école le lendemain ou pas. Il traîne avec ses potes sans dire où il était alors que nous, on s'inquiète. Si le dîner n'est pas prêt, il gueule. Parfois, je passe à côté de lui et je prends des réflexions alors que j'ai rien demandé. Je dors et au milieu de la nuit, il me réveille pour me forcer à lui faire un câlin. Et moi, je suis là, non, no means no. Et lui, il est là, allez, laisse-toi faire, putain. Avec son petit nez rose tout froid. Il a un délire scatologique malsain. Quand il se met dans sa litière, s'il me fixe pas dans les yeux, il n'arrive pas à déféquer. Vous avez une idée de ce que l'on peut éprouver, être un laxatif pour chat? Maintenant, dès que la moindre personne me fixe trop longtemps dans les yeux, je me demande si elle est pas en train de chier dans son froc.
Oh, j'ose plus vous regarder.
La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il mourra bientôt. Et c'est aussi ça dont il faut se rappeler. On peut perdre le contrôle, mais on peut aussi garder espoir.
Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Je vous regarde plus. Merci Harold Barbet. On vous retrouve la semaine prochaine et en tournée, car vous êtes reparti en tournée. Merci Andrea Gruev-Vintilat de nous avoir expliqué le contrôle coercitif. La suite, c'est dans le livre, le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale chez Duno. D'un minimo, la position du ministère de la Justice par rapport au contrôle coercitif.
On en a parlé. Je suis très heureuse que les recherches menées à l'université Paris-Nanterre, la médiation scientifique, le travail avec les magistrats aient donné des fruits d'abord dans la jurisprudence, mais surtout depuis juin 2025, nous avons la première circulaire de politique civile qui demande à tous les magistrats, c'est quelque chose que les pays nous envient, qui demande à tous les magistrats d'examiner la possibilité qu'il y ait du contrôle coercitif dans tous les litiges civils, y compris des affaires de surendettement, liquidation du régime matrimonial et ainsi de suite. Donc il faut saluer la position du ministère de la Justice là-dessus.
Zoom, zoom, zen.